Chapitre 18. Gina, 16 juillet 2018. Je commence par justifier mon souhait de partir seule. Olga affiche son air renfrogné des grands jours, mais au fond, je sais que toutes les deux comprennent très bien ma démarche. Puis, pendant près de 3 heures, entrecoupées de 2 pauses pipi, je raconte tout. Mes virées au casino d'Anguin, le jackpot, mon projet fou, Aigues Mortes, hier, Nice. Et au fil de mes aventures, je distille avec précaution et, je l'espère, le plus de délicatesse possible un certain nombre de non-dits. Lorsque je termine, un long silence s'installe. Je bois quelques gorgées de cette citronnade artisanale délicieuse offerte par Luther et tente d'imaginer ce que doit penser Chloé de toutes ces révélations. Moi, je me sens comme délivrée de la plupart des poids de mon passé. Mais elle, comment se sent-elle? Ai-je alourdi ses épaules alors qu'elle commence seulement à se remettre de la mort de sa mère? Il lui faudra du temps pour intégrer toutes ces choses qui n'ont pas été dites depuis 3 générations. Mais existe-t-il une autre méthode lorsque l'on a décidé de crever les abcès? Avant d'entreprendre cette aventure, j'étais persuadée que conserver de lourds secrets était un mal nécessaire. J'en doute de plus en plus. Quelle que soit l'épaisseur du mensonge à exhumer, il me semble désormais que le maître au jour peut éclairer d'une lumière nouvelle les souffrances de chaque maillon de la chaîne, permettre de comprendre ses propres failles, réparer, peut-être, apaiser, sûrement. Chloé, tu peux me détester de t'avoir caché tant de choses toutes ces années. Tu peux détester tous tes aïeux par la même occasion. Mais je suis certaine que chacun a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il était, avec ce qu'il avait. Toute trajectoire humaine est nécessairement imparfaite. Et j'ai toujours pensé qu'il était bien hasardeux de juger les décisions des autres. Quand je regarde ma vie, je la trouve romanesque et ça me plaît bien. Mais je ne m'en rends compte que maintenant. À 85 balais, le temps que j'ai perdu à cacher ma vraie personnalité, à avoir honte de mes origines, de mes choix de vie, à envier ceux pour qui tout avait l'air plus facile, ce temps perdu n'est plus rattrapable. Alors, si en libérant tous ces secrets, je te fais gagner un temps précieux de psychanalyse et de compréhension de ta famille, j'ai gagné la partie. Tu es ma plus grande fierté, Chloé. Quoi que tu fasses, quoi que tu décides, quoi que tu deviennes, je t'aime de tout mon cœur. Chloé se jette sur moi et me serre si fort que j'ai peur qu'elle m'étouffe. Elle est en larmes et moi aussi. Elle me remercie un bon millier de fois, me dit qu'elle aura besoin de temps pour digérer tout ça, bien sûr, mais que ça l'aidera, elle en est certaine. Que ça l'aide déjà, bien sûr. Puis Olga lui fait remarquer qu'elle n'arrête pas de dire « bien sûr » et tout le monde glousse entre 2 reniflements. Je jette un œil à Olga qui, d'un mouvement de tête et d'un sourire, me fait comprendre qu'elle approuve l'ensemble de ma diatribe. Je jette un œil à Luther qui a le visage encore plus décomposé que les nôtres. « Eh bien, mon petit Luther, vous êtes une petite nature, dites-moi. Ça n'est pas comme ça que j'imaginais un détective privé. » Il regarde Chloé pour savoir s'il doit prendre au sérieux ce que je viens de dire. Il sait tout de moi, mais il ne me connaît pas, après tout. Chloé intervient, et à sa façon de le regarder, je comprends qu'il se passe quelque chose entre eux. « Je ne suis pas née de la dernière pluie. » Elle lui adresse un clin d'œil et lui lance « Monsieur Hendricks est un grand sensible sous ses airs revêches. » Puis elle éclate de rire à son tour. Après une pause bien méritée au cours de laquelle Luther nous fait découvrir, à l'intérieur du Chelsea Market voisin, une fabuleuse boutique de cupcakes, rose fluo décorée de vermicelles turquoise et paillettes argentées, nous revenons dans la fraîcheur de son vaste bureau. Chloé se met à ricaner quand je lance à notre hôte que j'aime beaucoup la banane en cuir marron autour de sa taille. J'ai dit une bêtise ? Pas du tout, chère Gina. Je crois que nous avons les mêmes goûts. Entre cupcakes étranges et bananes. Votre petite fille nous trouve ringards, c'est tout. » Chloé continue de ricaner et lui lance « C'est faux, seul l'un d'entre vous me semble ringard, et ce n'est pas ma grand-mère. » Heureusement, Olga est toujours là pour mettre les pieds dans le plat. « Les jeunes, je suis bien contente que vous vous draguiez ouvertement, mais on va peut-être passer aux missions de Luther, si vous le voulez bien. » Chloé et Luther sont mortifiés, Olga très fière d'elle. J'expose la première mission confiée à Luther et je vois trois paires d'yeux commencer à briller. C'est pourtant la plus facile émotionnellement parlant. Luther prend la parole. « Gina, cette histoire est merveilleuse. J'en ai des frissons. Merci de l'avoir partagée avec nous. » Il marque une pause, puis commence à m'exposer le résultat de ses recherches. Il n'était pas évident de retrouver la Patrizia du bateau, avec la date approximative et le nom du paquebot qui vous a amené ici en 1938. L'America. J'ai pu consulter les registres d'arrivée de passagers à Ellis Island, point d'entrée unique pour les immigrants à cette époque. Il y avait tout de même plus de 2000 noms, souvent orthographiés de manière farfelue. Parmi les enfants nés entre 1931 et 1934, deux ont été enregistrés sous le prénom de Patricia, avec un C et non un Z, mais les employés d'Ellis Island américanisaient les prénoms et les patronymes sans se poser de questions. Une Patricia anglaise et une italienne, celle que vous recherchez. Patricia Ferrani, née le 14 avril 1932 à Milan. Il stoppe son récit brusquement. Tout à coup, j'ai peur qu'il me dise qu'elle est décédée. Ce serait bien possible à nos âges. Il remarque mon expression et reprend très vite. « Rassurez-vous, Gina, elle est en vie et habite toujours à Manhattan, dans l'Upper East Side. » Mon cœur se remet à battre. « C'est formidable, Luther, mais vous semblez soucieux. Qu'y a-t-il ?»« Quelle idiote ! Il est également fort possible qu'elle soit en piteux état. Je pense entendre toutes sortes de diagnostics, mais je ne m'attends certainement pas à ça. » Gina, il se trouve que Patricia Ferrani est devenue l'une des plus grandes stars de Broadway. Vous la connaissez sans doute sous le pseudonyme de Patty Milano. Je regarde Olga. Elle aussi est maintenant sur le point de faire un arrêt cardiaque. Patty Milano est l'une de nos actrices favorites. Nous nous passons très régulièrement le DVD de la captation du West Side Story de 1961, dans lequel elle est éblouissante. Gina, on va rencontrer Patty Milano! Oh my God! Trois visages incrédules se tournent vers celle qui vient de prononcer ces mots et éclatent de rire devant cette américanisation d'Olga à marche forcée. Luther reprend calmement. Je suis désolée, Gina, mais le pendant de sa célébrité, c'est qu'elle est très entourée. J'ai tenté de la joindre à de nombreuses reprises, elle ne répond pas, et son assistante personnelle ne donne pas suite. Je me suis même rendue sur place, chez elle. Elle vit au dernier étage d'un immeuble de luxe avec réception, portique et agent de sécurité au niveau des ascenseurs. Je crains qu'il soit très difficile de l'approcher. Très difficile n'est pas synonyme d'impossible, Luther. Quel est votre plan ? Car j'imagine que vous en avez un. J'ai toujours rêvé de prononcer ce genre de phrase. J'ai l'impression d'être Tom Cruise dans Mission Impossible, à deux doigts d'entrer chez Patty Milano en me projetant sur la façade de son immeuble depuis mon hélico. Et puis, moi aussi j'ai un assistant personnel désormais, mon petit Adrien d'Anguin. Malheureusement, Luther a le regard de celui qui n'a pas de plan. Gina, je pense que le mieux est de tenter de l'approcher lorsqu'elle sort de chez elle. J'ai passé une journée plantée devant son immeuble. Je sais que la plupart du temps, elle se déplace en voiture avec son chauffeur. Sauf, et c'est là qu'il faut intervenir, le matin vers 10h. C'est le moment où elle promène elle-même son chien dans le quartier. À cet instant, elle est seulement accompagnée de son assistante. Je regarde l'horloge au-dessus du bureau de Luther. Il est déjà près de 15h. Je suis déçue de ne pas la voir dès aujourd'hui, mais d'un autre côté soulagée de pouvoir me reposer un peu. J'aimerais être dans la meilleure forme possible pour la rencontrer. Merci, Luther. Vous viendrez avec moi demain matin ? Gina, je pense que la meilleure méthode pour n'effrayer ni Patty ni son assistante est une approche en douceur. Pardonnez-moi d'avance pour ce que je vais dire, mais en y allant seule et entre personnes du même âge, je pense que vous aurez plus de chances qu'elle tende l'oreille. Il est tellement mignon avec sa fossette qui lui creuse le menton quand il a l'air désolé. Bien, vous avez sûrement raison, Luther. J'irai donc seule. Je me tourne vers Olga qui vient de se décomposer. Olga, tu es la bienvenue. Si, et seulement si, tu promets de ne pas faire ta groupie. On n'est pas là pour ça. Promis, juré, craché. On va rencontrer Patty Milano. C'est mal parti, là. Tu permets que j'évacue. Ensuite, je serai plus calme que jamais. On va rencontrer Patty Milano. Les quelques heures qui viennent de s'écouler ont été d'une intensité folle. J'ai l'impression d'avoir été vidée de toute mon énergie. Je rassemble mes forces pour évoquer la deuxième mission confiée à Luther. J'explique, avec la plus grande neutralité possible, que ma mère et mon frère sont décédés peu après notre arrivée à New York. Olga était déjà au courant, mais l'information, pourtant jamais évoquée avec Chloé, n'a pas l'air de la surprendre. Je me dis que le respect de la confidentialité laisse à désirer du côté du beau Luther, mais ça ne fait rien. Je suis déterminée à ce que Chloé sache tout, désormais. D'après les informations qui m'ont été communiquées à l'époque, ma mère et mon frère ont été enterrés dans l'une des fosses communes où l'on déposait les corps des indigents. Mais laquelle ? Là est la question. Il n'y aura pas de tombe à leur nom, j'en suis consciente. Mais j'ai besoin de trouver le lieu. Moi qui ai toujours cru en la mémoire des murs, des sols, je veux toucher la terre dans laquelle ils reposent. La caresser, la sentir, en emporter un fragment avec moi, pour enfin réparer ce morceau ébréché de mon cœur d'enfant. Car je n'ai jamais pu leur dire au revoir, et cette blessure indélébile est toujours là, en moi. Luther m'explique ne pas avoir encore identifié le cimetière. Il y a de nombreuses possibilités, il s'est concentré sur Patty Milano dans un premier temps, et pas Patty, et pas Tata. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il me ment. Peut-être parce qu'il n'arrête pas de jouer avec le zip de sa banane. Peut-être parce qu'il n'arrête pas de jeter des coups d'œil à Chloé, qui semble gênée, elle aussi. Je ne sais pas ce qu'il cache. Mais il y a eu des moments pendant mon récit où tous les deux avaient l'air bizarres. Lorsqu'ils finissent par m'expliquer qu'ils vont aller sur Ellis Island pour se renseigner sur les sépultures, pendant que je partirai avec Olga à la rencontre de Patty Milano, je ressens un immense soulagement. J'appréhendais plus que tout de devoir me rendre sur ce minuscule îlot situé à l'embouchure de l'Hudson, à moins d'un kilomètre au nord de la Statue de la Liberté. Ellis Island était la porte d'entrée des États-Unis, cette terre des possibles si longtemps fantasmée. Au cours de ses 60 années d'activité, 14 millions d'immigrants ont foulé son sol. Et leur descendance constitue aujourd'hui un tiers de la population du pays. On la surnommait la Porte Dorée, mais on l'appelait aussi l'île des pleurs. Tant le nombre de drames qui s'y sont joués est difficilement évaluable. En 1938, j'y ai séjourné avec les miens. Je ne veux jamais retourner sur cette île de malheur. Les souvenirs sont encore à vif et les blessures intactes.